Il y a ces quatre vérités nobles. La première, dukkha, qui est tranquillement comprise ou acceptée. Et nous voyons quand nous sommes submergés ou non. La deuxième, tanha, qui peut être abandonnée peu à peu, nous abandonnons cette croyance à l'importance de la saisie, l'importance d'avoir ce que je veux, de ne pas avoir ce que je ne veux pas. La troisième vérité, les choses s'arrêtent, quelque chose s'arrête. Ce mouvement d'anticipation perpétuelle, de création perpétuelle s'apaise. La cessation. Et ça n'est pas rectiligne. C'est cet art de la méditation. Quelquefois, nous reprenons l'acceptation de dukkha. Nous sentons que ça, c'est trop gros. Ça, je ne peux pas. Et le travail se fait. Quelquefois, tout d'un coup, tanha revient en priorité. Ah! Ça s'accroche là, ça accroche. Une opinion peut-être. Ou autre chose. Les histoires liées aux maisons, souvent, hein, c'est fort. Lâcher sa maison, oh là là. Des fois même les voitures. Et puis la cessation, quelquefois nous l'expérimentons. Ah ouais, là oui, ça a lâché. C'est simple, c'est assez. Il y a ce repos, cette paix. Ce sont des vérités. C'est-à-dire qu'elle mène la réalisation, l'intérêt pour ces aspects-là de la nature humaine mène à la fin de la souffrance, pas à un meilleur karma. Je crois que vous avez compris. Et ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la quatrième vérité, le chemin. Le chemin, c'est une vérité. Lorsque je me mets en chemin, que je fais ma part, simplement maintenant, je suis dans la vérité. C'est quelque chose de noble, parce que ça n'est pas ce qui reproduit le cercle du samsara, c'est ce qui nous mène hors du cercle. Il ne s'agit pas de juger l'un ou mieux que l'autre, non. Le cercle, c'est le seigneur du monde conditionné. C'est là où nous habitons, nous le respectons, nous faisons notre part au mieux. Mais il n'est pas aria, il est fait de bien et de mal, de juste et de faux, de joie et de peine. C'est le monde de la complexité et des différences. Et le chemin a trois aspects. L'éthique, la pratique et le discernement ou la compréhension, la sagesse. Mais pas la sagesse en tant qu'ouverture énergétique, mais quand même aussi, mais quand même en tant que discernement conceptuel. L'éthique, c'est d'abord ce qu'on appelle les paramitas ou les brahmaviharas, ce qui fait que le cœur est ouvert, qu'il est au service, qu'il est dans la compassion, dans l'écoute. Et il y a tellement de ces petites attitudes merveilleuses, bonnes, belles et vraies. Un sourire à quelqu'un, un encouragement, donner notre temps, notre écoute, notre patience. Bien sûr, l'éthique, c'est aussi cette générosité matérielle. Savoir partager. Sentir comment... Bien sûr, il y a besoin d'être dans le bon sens. Nous avons besoin de matériel. Mais sentir quand nous faisons comme ça. Et puis quand je peux ouvrir. Ça demande un effort, c'est un travail. L'éthique est un travail. La générosité de tout cet inter-être, combien nous nous offrons depuis le matin quand on se lève, les uns aux autres. Quand je vais à Paris, quelquefois je vais enseigner à Paris, je trouve incroyable que cette ville fonctionne. Combien il y a de bonne volonté pour que tout ça fonctionne. C'est merveilleux. Donc nous faisons notre part en cultivant le bien. L'éthique, c'est aussi les préceptes. Nous renonçons, nous évitons de tuer, de voler, de mentir, de mal se comporter au niveau de la sexualité, d'abuser des drogues. Même de la drogue d'Internet. C'est un effort où là nous retenons, nous évitons. Nous pouvons travailler les préceptes aussi en préservant la vie. Moi, des fois, je tue les mythes, mais je sauve les vers de terre. C'est difficile d'avoir une éthique absolument claire. Ne pas voler, ben, c'est aussi savoir vivre simplement et surtout ne pas succomber à la croyance qu'il faut avoir beaucoup, ce que la société de consommation nous pousse à faire. Mes petits-enfants, ils veulent tous faire de l'argent. C'est horrible. Je leur demande, vous voulez faire quoi comme étude? Ah ben, je sais pas, mais je vais avoir de l'argent. Bon, ils sont jeunes, ça change. D'ailleurs, Timour, il a changé. Je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je suis contente. Ne pas mentir, la parole, c'est délicat. C'est tout l'interrelationnel. Comment être sincère sans être blessant? Comment trouver notre place sans créer la discorde, en maintenant la concorde? C'est très délicat dans un groupe. Comment ne pas blesser le cœur avec des paroles dures? Comment respecter le silence? Quelquefois, on parle dans un groupe juste parce que faut que je sois intéressante, que j'ai quelque chose à dire. Mais non, c'est bon d'être en silence. Le deuxième aspect, c'est la pratique. Connaître le qui suis-je. Lâcher un peu le mental pour venir dans le réel du maintenant. Et voir ce réel, mettre de la vérité sur le réel. Et la pratique, c'est aussi se lier au qui suis-je conscient, ce qui suis-je qui n'est plus lui, on pourrait dire, cet observateur silencieux, ce témoin, l'attention, quand je mets l'attention sur le corps, tel qu'il est, et non pas tel que je le souhaite, l'imagine ou le projette. Ce sont des moments de connexion, ce sont des moments de reliance. En fait, c'est ce à quoi nous aspirons. Ne plus manquer de connexion. Et ça se fait maintenant. Lorsque nous allons retourner dans notre quotidien et nous allons nous asseoir sur notre coussin, et puis, ben moi je pensais que je serais bien concentrée. Voilà quelle agitation. En plus de ça, il y a le doute. Voilà que j'aimerais vraiment me lever. Voilà qu'en plus, il y a de l'aversion parce que j'ai mal au genou. Fouf. Ben, il y a deux solutions. Soit je me lève, je vais faire mon café. Mais là, je perds quelque chose de grand. Je perds la présence. Et la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux la présence avec l'expérience désagréable ou bien l'expérience agréable, mais c'est la fin de la présence? Et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, à moins que la conscience soit bien développée et que je puisse la garder stable dans Au moment où je fais mon café, au moment où je me lève, je vais faire mon café, si je suis tout le temps présente, tout va bien, je perds rien. Et lorsque nous venons nous asseoir et que nous mettons le corps en priorité avec peut-être des paroles de bienveillance ou de refuge, nous développons la conscience et puis nous lâchons ce sens du moi, peu à peu. Et quand nous venons nous asseoir et que nous sentons, hein, j'ai pas envie, je vais aller faire ci ou ça. Ah, coucou Mimi, tranquille. Questionne ta conscience intuitive. Qu'est-ce que ta sagesse te dit de faire? Et on peut sentir comment l'ordinaire prend le dessus parce que nous sommes attachés à l'ignorance. Ou bien, comment l'effort sage est là, et puis ses qualités de patience, d'ouverture à dukkha. Il y a donc ces deux aspects que nous pouvons vraiment bien définir dans la pratique. C'est l'exploration du qui suis-je et la conscience de la présence. Et c'est le conditionné et l'inconditionné. Nous pouvons, dans l'assise, vraiment conscientiser ce moi qui est en train de parler là, et puis cette présence qui au fond accueille autant ce que je suis en train de vous dire que le fait que je vous vois. L'accueil est tout pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Et alors nous nous rendons compte que le moi est précieux parce qu'il porte cette compétence et puis parce qu'il a ces attitudes éthiques de générosité, mais aussi qu'il est rien, qu'il est poussière. Et alors le moi commence à prendre sa place, c'est-à-dire qu'il est en équilibre entre une totale acceptation de ses limites et une totale conscience de sa préciosité. Et puis je vous lis ça parce que je retrouve comme ça des paroles. Ou dans une retraite, je me posais la question, peux-tu te dire que tu es le plus beau cadeau de tout l'univers, le plus beau présent de tous les temps? Et c'était difficile, mais ça venait peu à peu. Et puis après de dire, la nature de l'esprit, c'est d'être heureux pour rien, je suis là et l'instant est béni. Et se dire ça quand l'expérience est neutre, ok, mais quand l'expérience devient difficile, c'est plus délicat. Cette connexion à la bodhicitta, au cœur de l'être, c'est aussi un travail spirituel, une pratique. Nous rencontrons Mara, mais Mara, ce n'est pas un diable à détruire, c'est un adversaire à rencontrer. Et Mara, c'est aussi ce seigneur du monde conditionné, le monde autour de nous, qui nous fait si peur parfois et que nous aimons tellement aussi. Alors, je vous lis le dernier truc que j'avais écrit. Une telle beauté dans l'effort désespéré de l'homme pour aimer. Lorsque moi, le petit moi, et moi, le grand moi, se sont rencontrés, qu'ils ont fait la paix, qu'ils sont devenus amis, moi et moi rencontrent Mara, l'Ekilesa. Et lorsqu'ils n'ont plus peur de Mara, qu'ils sont devenus amis, il n'y a plus personne. Il n'y a que l'espace, le silence, la conscience immense et un être humain qui fait sa part sur cette terre. Nous faisons notre part sur cette terre au mieux. Et dans l'éthique, c'est important de, pour moi, de ne pas être dans l'idéal. L'idéal, ça n'est pas la sagesse. Le Bouddha a enseigné ce chemin du milieu où je fais ma part au mieux, en étant conscient des limites du moi, des limites du monde, et dans cet équilibre entre le monde et illusion, de toute manière, et je veux faire le bien et éviter de faire le mal. Donc ça fait que je fais le bien et que j'évite de faire le mal sans sens du moi, sans cette espèce de lourdeur de d'avoir raison ou d'avoir tort. Gratuitement. Plus nous faisons les choses gratuitement, moins il y a de souffrance. Plus il y a d'enjeux, plus le corps est tendu, le cœur à l'étroit et la pensée confuse. Et souvent je ne le vois pas. La pensée peut très bien sembler claire. Il y a deux formes d'aveuglement. Il y a celui où j'y vois rien. Oh, je vois rien. Mais il y a celui où je crois voir clair. Et puis je suis complètement à côté de la plaque. Donc avec Sati, avec la pleine conscience, nous déblayons la complexité conceptuelle. Nous mettons la pensée à sa place. Au lieu que ce soit elle qui nous mène, je suis là et je l'emploie. Mais pour l'employer, le corps doit être là tel qu'il est. Je dois l'habiter. Pour permettre au dharma de nous habiter, il faut d'abord habiter le corps de manière très simple. Sentir les doigts quand ils s'ouvrent et se ferment. Parce que la pensée est extrêmement subjective, mais on croit toujours qu'elle est vraie. C'est vrai ce que je dis. Bien sûr, c'est vrai. Je vous lis une petite parole pour montrer cette subjectivité de la pensée qui dépend tellement du contexte. Un couple décide de passer des vacances dans l'île où ils avaient passé leur lune de miel 30 ans auparavant. Lui arrive un jour plus tôt, venu directement depuis l'endroit où son travail l'avait envoyé. Arrivé à l'hôtel, il envoie un mail à sa femme pour être sûr du jour de son arrivée. Mais en écrivant l'adresse email, il se trompe d'une lettre. Et son message arrive chez une vieille dame dont le mari, pasteur retraité, est décédé le jour précédent. Et voilà le message qu'elle lit. « Ma chérie, oui, le voyage est terminé et je suis finalement arrivée. J'ai été surpris de voir qu'ils avaient aussi une correspondance email. Ils me disent que tu vas arriver bientôt. Ce sera bon d'être de nouveau ensemble. Je t'aime comme toujours. PS, sois préparé. Il fait vraiment chaud ici. Et bien sûr, ça tisse tout le travail avec les émotions perturbatrices. Quand on parle de ça, c'est important de savoir que chacun a son chemin. Et que pour certains, le travail se fait beaucoup à travers les émotions perturbatrices. Pour d'autres, très peu. Ça se fait tout autrement. À travers le corps, à travers une pratique régulière où il ne se passe pas grand-chose. Pour d'autres, c'est beaucoup dans ce qui est intellectuel. D'ailleurs, les écoles au niveau du bouddhisme sont aussi variées que notre manière de suivre le chemin. Il y a des écoles qui privilégient l'étude, d'autres vraiment la pratique, particulièrement le zen, où il y a très peu de partage intellectuel. Et puis pour certains, leur pratique, c'est vraiment le quotidien, comment offrir, donner dans le quotidien. Prioritairement. Et le Bouddha n'a rien privilégié. Il s'adressait aux personnes par rapport à leur besoin ou leur tendance, ce qui allait les nourrir. Et les émotions perturbatrices, ben c'est voir les choses telles qu'elles sont, c'est accepter, c'est arrêter le double message, j'ai peur d'avoir peur, je déteste ma colère. Je désire ne pas désirer. Donc le monde des perceptions, ce monde où il y a c'est agréable, j'aime, je veux, c'est désagréable, je n'aime pas, je veux pas. Il commence à être vu plutôt que cru. Plutôt que j'identifie immédiatement, je commence à avoir un peu de... Et ce n'est pas du tout que nous les nions ou que nous les rejetons parce que le monde des perceptions, c'est la vie, hein, c'est le samsara. C'est comme ça. Ça n'a pas à être autrement. Je vous dis une parole de Wellwood. Ma foi, c'est toujours les mêmes. Hein, mais elle est vraiment bien. Moi, je les toujours les mêmes, je les aime toujours. Alors, vous commencez à découvrir que la bête et la beauté vont main dans la main. La bête n'est en fait rien d'autre que votre beauté blessée. C'est la beauté qui a perdu confiance en elle-même, parce qu'elle n'a jamais été pleinement reconnue. Ne pas croire que nous sommes aimés et dignes d'amour a engendré les réactions émotionnelles les plus bestiales. Colère, arrogance, haine, jalousie, dépression, insécurité, avidité, convoitise, peur de perdre et d'être abandonné. La bête a un certain pouvoir, celui de dire non et de se fermer dans les défenses du moi. Elle nous coupe d'un pouvoir plus grand, c'est la capacité de dire oui. Comme la grâce du danseur s'exprime dans les mouvements, les sauts, la souplesse en lien avec la musique, notre beauté se révèle dans notre capacité de nous ouvrir à la réalité et de chevaucher les courants changeants de la vie. La bête blessée, c'est seulement la fermeture de cette merveilleuse faculté de grâce et de fluidité. Et nous pouvons faire cette expérience ici et maintenant. Comment ressentir dans le corps quelque chose de douloureux, le laisser être, s'intéresser, le qualifier, dire où c'est, comment c'est, et faire l'expérience que la conscience qui a touché, qui s'est connectée à la blessure, a un pouvoir de purification. Parce que si vous faites ça, vous pouvez sentir comment ce qui était sombre et dur devient blanc et doux, ou ce qui était solide se dissout, se liquéfie ou disparaît. Et de faire cette expérience donne une immense confiance dans la présence. Si nous sommes ici, nous avons pas mal de confiance dans la présence. Mais lorsque nous avons certains fruits, la confiance grandit. Et alors le chemin devient vraiment une vérité. C'est vraiment ça qui devient prioritaire. Je vous lis encore une parole, parce que je trouve que les paroles, c'est pas mal. Mais je vous l'ai peut-être déjà lu. Ma foi, 75 ans, on a le droit. Hein. L'homme fort est celui... Je ne l'ai pas lu. L'homme fort est celui... Non. Christelle, elle la connaît, mais d'autres pas. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. C'est le saint petit Placide qui a écrit ça. Puis je trouve beau d'avoir une parole chrétienne pour sentir que c'est le même travail pour ceux qui font vraiment, qui entrent vraiment dans une mystique. L'homme fort est celui qui s'est enfoncé profondément dans la faiblesse du Christ. Écroulement de la force factice, du plein de soi, de l'agitation ridicule de la fourmi qui croit bâtir le monde. Tout anéanti, il dit « Seigneur, je ne peux plus rien ». Et à mesure que s'écroulait sa force humaine, la force de Dieu le remplissait. Le non-effort fait partie de cette pratique, Quelquefois, je ne fais plus rien. Je me laisse faire. Et alors, nous pouvons employer la respiration ou non pour laisser venir cette qualité de refuge et abandonner la volonté propre. J'abandonne ma volonté propre pour juste laisser être. Et c'est, ça peut être extrêmement jouissif, c'est trop bien, mais ça peut être juste tout simple. Le dernier aspect, c'est ce qu'on appelle Panya, la sagesse. La sagesse, c'est la compréhension des quatre vérités, l'engagement sur le chemin. C'est aussi cette intention, l'intention a un rôle qu'il ne faudrait pas négliger, mon intention. Dans l'éthique aussi, lorsque vous nommez votre intention, après, ma foi, il faut bien faire quelque chose. Je nomme mon intention et puis, ma foi, je fais. Mais j'ai nommé mon intention. Et l'intention, ce n'est pas un idéal, c'est un chemin. C'est d'aller vers la compassion et le non-attachement. D'aller vers le service gratuit. Mais ça ne veut pas dire que je vais me flageller parce que je n'y suis pas. Nous allons forcément être dans cette imperfection du monde et de soi-même. Mais nous nommons clairement l'intention. Et si vous sentez énergétiquement, si l'intention est nommée, je sais que je suis un peu dans l'aveuglement, peut-être pas mal, mais au moins je le sais. Et je fais ma part, et ma foi, je peux monter qu'une marche à la fois. Je ne peux pas monter 5 marches à la fois. L'éthique, c'est l'intention, c'est le travail sur les vérités, mais c'est aussi le travail relationnel. On l'a vu hier un peu, où je pourrais être toi. Ce mystère de l'incarnation. Chacun a son cercle. Pourquoi j'ai ce cercle-là? Et alors, lorsque nous travaillons cette fraternité, on pourrait dire cet inter-être, il y a une meilleure compréhension de l'engagement. Et au service de quoi L'engagement peut être. Un engagement sans réactivité et sans peur. Ou plutôt un engagement qui est conscient des réactivités et des peurs. Et alors nous revenons à la pratique. Pouh, dis donc, là, ça réagit sec. C'est comment? Ces deux ailes de l'oiseau. Sagesse et compassion. Bon, je crois que je vais pas résister. Je voulais pas vous lire le poème de Thich Nhat Hanh, mais je vous le lis quand même. Parce que c'est un des plus beaux poèmes que je connaisse. S'il vous plaît, appelez-moi de mes vrais noms. Ne dites pas que je partirai demain. Aujourd'hui encore, j'arrive. Regardez profondément. Chaque seconde, j'arrive. Comme un bourgeon sur une branche de printemps. Comme un petit oiseau, aux ailes encore fragiles, apprenant à chanter dans son nouveau nid. Comme une chenille dans le cœur d'une fleur. Comme un joyau qui se cache dans une pierre. J'arrive encore pour rire et pleurer, pour avoir peur et pour espérer. Le rythme de mon cœur est la naissance et la mort de tout ce qui est vivant. Je suis l'éphémère qui se métamorphose à la surface de la rivière. Et je suis l'oiseau qui s'envole pour avaler l'éphémère. Je suis la grenouille qui nage joyeusement dans l'eau claire d'un étang. Et je suis la couleuvre qui se nourrit silencieusement de la grenouille. Je suis l'enfant en Ouganda, avec seulement la peau et les os. Mes jambes sont aussi fines que des bâtons de bambou. Et je suis le marchand d'armes qui vend des armes meurtrières à l'Ouganda. Je suis la fillette de 12 ans, réfugiée sur un petit bateau qui se jette dans l'océan après avoir été violée par un pirate des mers. Et je suis le pirate, mon cœur n'étant pas encore capable de voir et d'aimer. Je suis un membre du Politburo avec beaucoup de pouvoir entre mes mains. Et je suis l'homme qui doit payer sa dette de sang envers son peuple et mourir lentement dans un camp de travaux forcés. Ma joie est comme le printemps, si chaude qu'elle fait éclore des fleurs partout sur la terre. Ma douleur est comme une rivière de larmes, si vaste qu'elle remplit les quatre océans. S'il vous plaît, appelez-moi par mes vrais noms, pour que j'entende tous mes cris et mes rires à la fois, pour que je puisse voir que ma joie et ma douleur ne font qu'une. S'il vous plaît, appelez-moi par mes vrais noms, pour que je puisse me réveiller et pour que la porte de mon cœur puisse rester ouverte, la porte de la compassion.